Il y a une des côtes françaises qui est, sans être chauvin, la plus belle côte de France. C'est la côte qui va de Eu-le-Tréport au Havre. Alors, vous allez me dire, il est impartial. Quand il fait beau, ces endroits-là sont magnifiques. Et il y a un joyau, on peut l'appeler comme ça, c'est Étretat. Je ne sais pas si vous êtes allé à Étretat, et c'est magnifique. Et il y a notamment ce qu'on appelle les aiguilles, vous savez, qui sont des espèces de gros blocs de calcaire qui sont séparés un peu de la côte. Et il y en a certaines où on peut aller presque à l'intérieur, parce qu'on a fabriqué un petit pont pour y aller. Et je vous parle de ça parce que il y a dans ce pays un personnage qui n'existe pas mais que tout le monde connaît, c'est Arsène Lupin. Et l'auteur de tous ces ouvrages est Maurice Leblanc, a vécu en Normandie. Il faisait tout le tour en vélo et si vous voulez découvrir la Normandie, lisez Les Aventures d'Arsène Lupin. Et il y a un de ces ouvrages qui s'appelle L'Aiguille creuse, qui relate la recherche du trésor des rois de France qui auraient caché ce trésor dans ce qu'on appelle les demoiselles, hein, c'est donc ces pics de calcaire et qui auraient été creusés. Tout ça est totalement faux, mais qui auraient été creusés et dans lequel et Arsène Lupin va prendre, parce qu'il a découvert un vieux manuscrit, et il va prendre tout un tas de temps. Il y a plein de gens qui sont à la recherche de ce trésor. Et finalement, à la fin, il va être obligé de partir parce que pratiquement toute la France est autour de lui pour essayer de retrouver ce trésor dans lequel il n'y a plus rien parce que les rois de France ont utilisé et gaspillé tout l'argent qui était là. Bref, pour vous dire qu'il y a des gens qui passent leur vie à chercher des trésors. Et il y en a d'autres qui trouvent des trésors ailleurs. J'ai une histoire que j'ai lue récemment. C'est pendant la guerre où les Juifs étaient obligés d'aller se faire recenser. Et à Paris, il y avait le grand bureau des Juifs de France. En fait, c'était plutôt le grand bureau pour les amener directement à Dachau ou à Buchenwald. Et alors, les gens devaient aller se déclarer et ils rentraient dans le bureau et on ne les voyait jamais ressortir. Et donc, certains résistants français ont dit, il faut qu'on les prévienne. Et donc, ils ont mis, c'est une dame, une petite dame qui est montée dans cette maison et s'est déguisée en femme de ménage et avec un chiffon et un balai. Et pratiquement, presque tous les jours, elle allait astiquer l'escalier qui était magnifique et les chiffons étaient usés. Et elle disait aux gens qui arrivaient, n'y allez pas, sauvez-vous. Et son trésor à elle, c'était ça. Et elle a sauvé une quarantaine de juifs parce que les gens ne croyaient pas. Et il continuait à monter, à frapper à la porte et elle voyait les camions partir en bas. Et cette dame, au bout d'un moment, elle s'est fait repérer, évidemment. Et les gens de la Gestapo sont venus lui dire, mais vous faites quoi ici? Elle dit, je nettoie. Je dis, oui, c'est propre. Et le chiffon était tout usé. Alors, ils lui ont demandé de partir. Et la première chose qu'elle a été faire, c'est d'aller prier pour remercier Dieu que quelques personnes avaient pu être sauvées. Et son trésor à elle, c'était d'avoir sauvé ces gens grâce à Dieu. Et nous aussi, nous avons un trésor. Et on en a parlé tout au cours de cette matinée. Et ce trésor, eh bien, vous le savez, c'est Jésus-Christ. Et dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Alors, nous avons l'assurance que la présence de notre Dieu Tout-Puissant nous enveloppe continuellement et demeure avec nous au travers même de nos difficultés, qui peuvent être des difficultés mineures, mais parfois des difficultés et des problèmes majeurs. Et en Hébreux, chapitre 13, verset 5, il est dit « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et dans un des psaumes, au psaume 121, verset 8, écoutez bien, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Notre trésor à nous, c'est que le Christ, Dieu, est avec nous. et qu'il est là à la porte, qu'il frappe. Alors, honnêtement, honnêtement, allez dans le fond de votre cœur et pouvons-nous ensemble déclarer que cette présence divine est pour nous toujours une réalité dans nos vies? Est-ce que tous les jours, nous avons cette sensation d'avoir ce Jésus qui frappe à la porte et il nous suffit, nous, d'ouvrir la porte et il va être là et il va entrer. Alors, c'est vrai que si nous ne faisons pas l'expérience de Dieu dans notre vie de façon, je dirais, manifeste et permanente, eh bien, c'est à nous que la faute incombe. C'est pas à Dieu. Dieu, il est là, il frappe à la porte et il attend que nous ouvrions cette porte. Alors, il faut se demander ce qu'il convient de faire pour pouvoir comprendre cette présence autour de nous. Comment est-ce qu'on peut affirmer dans nos vies notre perspective spirituelle? Qu'est-ce que vous avez en tête dans vos vies comme perspective spirituelle? Et que faire pour se sentir rempli de joie de sa présence? Le mot foi, qui en grec veut dire qui est pistis, eh bien, se retrouve 244 fois, sans jeu de mots, dans le Nouveau Testament. Vous vous rendez compte? La foi, c'est quelque chose qui est tout le temps dans tous les enseignements que nous donne le Nouveau Testament. Et la foi, ça veut dire être persuadé. Être persuadé. C'est pas une espèce de croyance. C'est être persuadé de la présence de Dieu dans nos vies. Alors souvent, j'ai déjà raconté cette histoire, connaissez tous Théodore Monod, ce petit vieux là qui allait chercher des tas de trucs dans le désert jusqu'à 90 ans, et il était fils d'une génération de 5 ou 6 pasteurs. Et son père, souvent quand il allait parler de Dieu aux gens, souvent les gens disaient je ne crois pas en Dieu. Et ce que disait le pasteur Monod, c'est « En quel Dieu ne croyez-vous pas ?»« En quel Dieu ne croyez-vous ?» Et là, ça posait vraiment une question, parce que ça obligeait les gens à se dévoiler. Alors, l'apôtre Jacques nous enseigne « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est l'histoire de la brebis perdue. Comment est-ce qu'on peut trouver Dieu? C'est pas la bonne question. La réponse, c'est comment est-ce que Dieu peut vous trouver? Est-ce qu'il faut faire des tas de choses pour que Dieu vous trouve? Apparemment, d'après ce qu'on vient de lire, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit d'écouter et d'entendre, le frapper à la porte. Alors, on va lire ce passage dans La brebis perdue. Et Jésus vient de parler à des péagers. Et à des pécheurs qui s'approchent de lui pour l'entendre. Alors c'est la première chose, s'approcher de Jésus pour l'entendre. Alors les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Ben oui, il est venu pour eux, il est venu pour nous. C'est normal qu'il s'approche d'eux et qu'il parle et qu'il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Alors, le secret, ce n'est pas tellement de trouver le trésor, c'est de se laisser trouver par notre Dieu. Simplement se laisser trouver. Et si la Bible, si la parole de Dieu nous enseigne quelque chose, c'est que non seulement les hommes peuvent chercher Dieu, mais c'est surtout Dieu qui cherche les hommes, qui vous cherche. Si vous êtes là ce matin, ce n'est pas parce que vous êtes un super chrétien ou je ne sais quoi, c'est parce que Dieu vous cherche et vous titille pour vous dire, tu as peut-être besoin d'aller écouter la parole, tu as besoin de me louer, tu as besoin de rencontrer tes frères et tes sœurs. Jésus nous enseigne à travers cette histoire que le Dieu de l'univers, vous vous rendez compte, celui qui a tout créé, l'absolu, s'est engagé dans une quête assidue de chacun d'entre nous. Vous imaginez quelle importance vous avez pour Dieu? Il est en train de vous chercher, vous, personnellement. Et c'est intéressant de voir ça. Alors tout à l'heure, on a cité Gandhi. Il a dit des très belles choses, mais il a dit des choses aussi un peu bizarres. Il a dit, pour trouver Dieu, vous devez faire preuve d'autant de persévérance qu'un individu assis au bord de la mer et s'efforçant de la vider goutte après goutte avec une paille. Ben là, Gandhi, il avait tort. Il avait tort. C'est un grand homme, il a fait des choses extraordinaires. Il a montré de l'amour pour tous ceux qui l'entouraient. Mais là, il avait tort. Nul besoin de poursuivre laborieusement Dieu. Il suffit simplement de se laisser trouver par lui, d'accepter le don et d'appartenir pour toujours au donateur. C'est quand même beaucoup plus simple quand vous savez que Dieu vous cherche et que Dieu veut vous trouver. Jésus veut entrer dans notre existence et il frappe pas avec, vous savez, comme dans les films policiers avec un gros bélier là pour ouvrir la porte. Il frappe doucement à la porte. Il attend qu'on ouvre. Et donc, du zèle et réponds et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu nous aime, mais son amour est tellement profond. Peut-être on n'arrive même pas à le comprendre. Il est tellement respectueux de notre personnalité. Il est tellement bon avec nous que pour ne pas nous étouffer, il vient simplement frapper à la porte. Et c'est à nous de l'ouvrir. Et il n'ouvrira cette porte uniquement si nous lui donnons notre autorisation. Dieu nous cherche, il attend une réponse. Alors, pour nous, il faut que nous considérions cette recherche que Dieu fait comme un trésor que nous devons avoir au fond de nos cœurs. Lorsque, par notre propre volonté, nous décidons d'accueillir Dieu, eh bien, rien sur la terre comme dans le ciel n'a le pouvoir d'empêcher Dieu, Jésus-Christ, de rentrer dans vos cœurs. Rien. Et nous devons avoir cette soif spirituelle pour Dieu. Encore une fois, tout dépend ce que vous recherchez comme trésor. Je vois souvent des publicités. Je ne sais pas si vous avez vu cette publicité, le gars qui gagne au loto et qui vient gagner une piscine fouillouillouille, là. Vous avez vu ça? Et je vais vous dire une chose, la piscine fouillouillouille, moi ça me dit rien, j'aime pas trop nager. Mais vous voyez, mais on peut se laisser embrigader, prendre par cette recherche de trésor, de cette piscine fouillouillouille, parce qu'elle nous attire. Il faut que nous remettions dans nos esprits notre véritable quête. Et souvent, nous n'espérons même pas que Dieu vienne nous aider à l'entendre et à ouvrir cette porte pour qu'il rentre dans nos cœurs. La plupart des chrétiens, eh bien, ne comptent pas sur leur relation pour justement trouver ce trésor. Pour les transformer. Dans l'Apocalypse, on dit repens-toi, pour les transformer. Et souvent même, on peut même jusqu'à dévisager ceux qui croient qu'il peut y avoir un changement de condition dans l'heure qui vient. Et ça serait comme si on professait une doctrine presque étrange, vous vous rendez compte? Changer quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Si Dieu peut faire ça, Dieu peut agir dans vos cœurs. Et finalement, la plupart des chrétiens, je ne dis pas ça pour vous, mais la plupart des chrétiens sont accoutumés à la défaite. Sont accoutumés à la défaite. Et finalement, c'est assez affligeant de voir ça. De ne pas croire que le trésor que nous avons peut nous permettre d'être des vainqueurs. Bien évidemment, dans nos journées, comme on le dit toujours, eh bien, la condition préliminaire, la première condition à toute journée, une journée qui serait exultante, eh bien, à toute vie exaltante, c'est dans l'attente d'une journée avec Dieu. Et lorsque vous vous réveillez le matin, prenez 2 minutes. Mon épouse me dit que je fais sonner mon réveil trop vite. Et c'est vrai. C'est vrai que 6h15, c'est tôt. Mais ça me permet d'avoir 5-6 minutes. Peut-être des fois je me rendors. Mais 5-6 minutes de pensée, d'avoir une pensée pour Dieu, pour dire Seigneur, ça va pas être une journée facile. Je vais avoir des tas de trucs. Je vais pas forcément être de bonne humeur. Seigneur, aide-moi pour que ce soit une bonne journée avec toi. Et la parole nous enseigne, nous présente un Dieu qui n'aspire qu'à une chose, c'est d'avoir une relation profonde avec lui. En Jean chapitre 14, verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, écoutez bien, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est quand même assez incroyable de penser. J'arrive parfois même pas à imaginer ce que ça peut être que Dieu et Jésus vivant avec moi dans mon cœur. C'est une promesse que Dieu nous donne, mais il faut l'attendre, cette promesse. Et souvent, on se pose des questions sur notre foi, sur Dieu, sur notre attitude envers Dieu. Et finalement, cette attitude, elle dépend de ce qu'on attend de lui. Une attente pleine de joie, de tout ce que peut nous donner le Seigneur, va nous donner une bonne journée. Et finalement, il faut savoir aussi que la foi, une grande partie de la foi, elle est composée d'attentes. On attend quelque chose. Une attente, je dirais, qui est attisée et titillée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous réveiller, pour nous dire, regarde ce que le Seigneur te donne. Quand vous pensez à Dieu, pensez pas que c'est vous qui dites, tiens, je veux penser à Dieu. C'est l'Esprit Saint qui vous a été donné lors de votre baptême, qui vous titille, qui vous excite à penser à Dieu. Et si vous commencez votre journée ainsi, remplie d'espoir, en contemplant la face de votre Père, eh bien, vous ne serez jamais déçu. Alors parfois, vous allez dire, oui, ça ne m'empêche pas, je suis inquiet, je ne dors pas la nuit, ça arrive. Très rarement pour moi, mais ça arrive. Vous êtes anxieux pour des tas de raisons qui sont valables, pour des problèmes peut-être mineurs ou des problèmes majeurs. Eh bien, pensez à ça, c'est que Dieu est en train de vous dire, dors maintenant. Moi, je reste éveillé et je te surveille. Parce que Dieu ne s'arrête pas d'agir quand nous dormons, il est là dans nos esprits. Et nous pouvons triompher avec Dieu, pas seulement dans le futur. Hein. Jésus-Christ et Dieu ne sont pas des entités du futur, ils vivent avec nous. Et quand nous pensons à ce que nous vivrons dans l'éternité, eh bien, ça doit se vivre dès aujourd'hui. En psaume 16, verset 11, il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles. Une foi qui serait triste et torturée est une foi qui n'est pas soutenue par l'Esprit Saint. Elle manque de vaillance de l'Esprit qui travaille en nous. Elle manque de la vision du plan de Dieu. Elle manque de la confiance dans les promesses de Dieu. Et il nous faut demander absolument à Dieu de réactiver notre esprit. Et de croire à la puissance de Dieu, aux choses extraordinaires que Dieu peut faire dans nos vies pour nous. Alors, on peut être découragé, pas par Dieu, par nous-mêmes. Parce que si notre foi est en train de faillir, eh bien, c'est nous. Jésus est toujours là. Vous entendez? Il frappe à la porte. Il suffit d'ouvrir et il va être là. Il est toujours là. Parce que, et c'est pour ça que nous ne devons pas faiblir, c'est parce que nous savons qu'il est toujours là. Alors, il faut savoir où placer sa confiance, où c'est dans la piscine fouillouillouille, où c'est en Jésus-Christ. Et si nous voulons être des winners, il faut penser à Jésus-Christ. Si nous voulons être des losers, pensons à la piscine fouillouillouille. Vous rigolez, mais nous sommes tout le temps attirés par ça. Tout le temps. Vous entendez, j'écoutais hier soir une émission historique là, sur les plus beaux monuments que les Français aiment le mieux. Et tous les 5 minutes, si vous voulez gagner 10 000 euros, répondez. À un moment, je me suis dit, bah, je connais la réponse, je vais aller répondre. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'était le syndrome de la piscine fouillouilloui. Et vraiment, il faut vraiment que dans nos vies, nous puissions comprendre ce que Dieu peut nous apporter. Et notre foi, c'est notre arme. Les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles que Dieu va nous donner. Il attend que nous ouvrions la porte. Alors, ouvrons la porte.